Le balado Production laitière vous expose des connaissances scientifiques grâce à des rencontres avec des chercheurs, des producteurs et des conseillers passionnés de leur métier. Une initiative du CRAAQ, en collaboration avec Novalet et LactaNet, qui vise à vous expliquer des éléments clés de certaines recherches et comment transférer ces connaissances scientifiques dans vos pratiques courantes à la ferme. Ce premier épisode est consacré à un thème bien précis, la ventilation à la ferme. On aborde ce premier thème avec Sébastien Fournel, chercheur et professeur adjoint en infrastructures et équipements agricoles et titulaire de la chaire au sein du département des sols et de génie agroalimentaire à l'Université Laval. On remarque avec Sébastien Fournel qu'il y a beaucoup de recherches sur les changements climatiques et ces dernières démontrent que travailler sur la ventilation pour diminuer le stress thermique des animaux est primordial.
Oui, certainement. Ce qu'il faut comprendre d'abord et avant tout, c'est qu'au cours des dernières années, étant donné que les fermes sont de plus en plus grosses, puis qu'on est dans un contexte de changement climatique. Donc, on a subi les derniers étés des canicules assez importantes. Donc, les vaches ont subi un certain stress thermique. Les vaches sont aussi de plus en plus grosses, étant donné l'évolution de la génétique et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se fait beaucoup sur l'adaptation au changement climatique. Puis, un des points importants, c'est justement d'améliorer les systèmes de ventilation, puis de mieux comprendre comment on peut aider les vaches à diminuer leur stress thermique, puis à toujours leur donner des conditions ambiantes qui leur permettent d'exprimer leur plein potentiel, puis qu'il y ait le moins de perte de rendement possible. Donc, la littérature scientifique, justement, va essayer de tenter de trouver des façons beaucoup pour réduire ces stress thermiques-là. Donc, des nouveaux systèmes de ventilation. Donc, dans les plus grosses fermes, par exemple, aux États-Unis, on va beaucoup travailler sur la ventilation transversale, mais avec toiture inversée. Donc, qui est un peu un type de ventilation tunnel, comme on a beaucoup ici au Québec, mais qui est dans l'autre sens, pour permettre un flux d'air entre les vaches plutôt que de l'air qui frappe perpendiculairement les vaches, avec des systèmes aussi de panneaux qui vont permettre une accélération de l'air au niveau des vaches. Donc, ces systèmes-là qui est beaucoup mis de l'avant. Sinon, on est beaucoup aussi au niveau des systèmes de ventilation à pression positive, où on essaie de pousser de l'air frais directement sur les animaux au lieu d'être en ventilation négative. Puis sinon, on est beaucoup aussi au niveau des systèmes de refroidissement, donc d'optimiser les systèmes de ventilation de recirculation, donc des petits ventilateurs qui sont à l'intérieur du bâtiment qui vont justement assurer un bon brassage de l'air et d'aller chercher certaines vitesses d'air au niveau des animaux. Puis il y a tous les systèmes plus de refroidissement à l'eau, que ce soit la brumisation, l'aspersion. Donc on est beaucoup dans, donc les recherches sont beaucoup dans l'optimisation de ces systèmes-là. Les niveaux de marche-arrêt, puis les écarts entre justement les démarrages, puis les quantités d'eau aussi qui sont aspersées.
Quels seraient les principaux arguments scientifiques là, qui poussent à se préoccuper sérieusement de la ventilation dans ces contextes-là?
Je dirais de façon plus générale, la ventilation, son but ultime, c'est d'extirper les contaminants de l'air à l'intérieur de l'étable, donc l'air usé, pour faire entrer de l'air frais. Donc, si on aurait une étable qui n'était pas ventilée, ben on aurait une accumulation à l'intérieur du bâtiment de chaleur, d'humidité et de certains gaz qui peuvent être problématiques. Donc, l'idée de la ventilation, c'est justement d'amener de l'air frais, puis de sortir l'air vicié qui est rempli de contaminants pour justement offrir des conditions ambiantes qui soient confortables puis optimales pour les animaux. Si c'était pas le cas, justement, si on a une accumulation de la chaleur, des gaz, de l'humidité, ben on aurait possiblement des problèmes au niveau respiratoire. Les vaches pourraient justement attraper des pneumonies. Ils pourraient aussi avoir des problèmes, un peu comme chez les humains, des maux de tête, de la toux, des vomissements, des nausées, des choses comme ça. Donc, toutes sortes de problèmes de santé qui pourraient se répercuter sur les vaches, puis éventuellement ben, aussi sur les travailleurs, bien évidemment, qui travaillent à l'étable.
C'est dans quel système qui serait le plus avantageux de mettre en place justement un système performant de ventilation dans une étable?
Sur le marché, il existe différents types de ventilation, qu'on pense à la ventilation naturelle, la ventilation mécanique, que ce soit transversale, longitudinale, toiture conventionnelle, toiture inversée, avec justement les systèmes hybrides. Mais de façon générale, tous ces systèmes-là peuvent très bien fonctionner dans la réalité s'ils sont bien conçus. Donc, tout est une question de conception. Donc, l'idée, c'est souvent, comme on vient de le mentionner, le but de la ventilation, c'est de sortir l'air vicié pour rentrer de l'air frais selon les bons débits. Ensuite, par période de temps chaud, d'offrir des bonnes vitesses d'air de refroidissement au niveau des animaux. Sinon, c'est d'optimiser les courants d'air, donc pour qu'il y ait un bon brassage de l'air qui n'est pas nécessairement de point mort. Puis ensuite, c'est sûr que c'est pas tous les systèmes qui vont fonctionner dans tous les climats et tous les environnements. Si on a un bâtiment là, qui est à proximité de plusieurs autres, donc possiblement que là, l'air circule moins bien à l'extérieur, donc la ventilation naturelle pourrait ne pas être idéale dans ce cas-là. Mais sinon, une fois que c'est bien conçu, bien pensé, bien, ça reste beaucoup au choix du producteur selon ses besoins puis ses volontés. Donc, par exemple, une ventilation naturelle sans ventilateur, donc beaucoup moins bruyant, va être aussi beaucoup moins coûteuse, étant donné qu'on n'a pas acheté des ventilateurs puis on n'a pas de coût d'éparation lié à l'électricité. Par contre, si on a des problèmes de courant d'air en été puis que les vents ne sont pas assez forts, donc possiblement qu'on va on va entraîner des problématiques de stress thermique en été, ce qui peut être compensé là, par des systèmes mécaniques. Donc, c'est vraiment au goût du producteur. Puis une fois que son choix est fait, en fonction de ses besoins puis de ses intentions, bien c'est au concepteur de s'assurer justement de bien dimensionner le nombre de ventilateurs, la quantité pour aller chercher justement les bons changements de taux d'air, puis une bonne vitesse d'air, puis d'éviter les points morts.
Donc si je comprends bien, il n'existe pas nécessairement un seul système optimal de ventilation, tout est en fonction de l'analyse qu'on fait du lieu, des bâtiments existants.
Tout à fait. Donc, tous les systèmes, si bien conçus, peuvent bien fonctionner. S'ils sont mal conçus, ben, ils peuvent tous dérailler et mal fonctionner, autrement dit.
Quels ont été les résultats les plus novateurs là, dans l'installation de ce type de système? Est-ce qu'il y a des réalisations qui se sont distinguées?
Donc, tout à l'heure, je parlais beaucoup de la ventilation à pression positive. Donc, il y a des nouveaux concepts qui sont présentement à l'essai puis dont on parle beaucoup. Souvent, donc, c'est toujours dans une conception un peu hybride où on essaie de pallier souvent un manque d'air en été pour aller chercher de l'air frais puis de la pousser directement sur les animaux. Mais comme je le dis, c'est souvent des systèmes hybrides donc qui vont fonctionner dans certains cas particuliers, donc pas nécessairement dans toutes les options. Il y a d'autres choix qui peuvent aussi être offert ou être disponible pour les producteurs qui vont faire le même travail. Sinon, de notre côté, peut-être plus dans la recherche au niveau du Québec, de ce qui a été fait un peu dans le groupe de recherche avec lequel je travaille. Donc, j'ai des collègues au département des sciences animales à l'Université Laval, donc Étienne Charbonneau et Yvrine Écouillette, avec qui on a travaillé beaucoup sur justement les stress thermiques et les systèmes de refroidissement disponibles et possibles ici au Québec. Puis, lors du projet de doctorat justement de Véronique, elle s'est beaucoup intéressée à l'impact sur le taux de gras, le taux de protéines dans le lait, dans les situations de stress thermique, donc à partir des données de plusieurs fermes dans les bases de données de Valacta, est en mesure de voir la baisse de protéines puis de gras dans le lait en été par rapport à l'hiver, ça donnait quoi, puis ensuite de chiffrer au niveau du calcul pour le coût de revient là, pour le lait, de voir c'était quoi la différence pour des fermes type en Montérégie puis au Bas-Saint-Laurent. Puis ce qu'elle est en mesure de calculer, c'est que pour une ferme type justement Montérégie-Bas-Saint-Laurent, on parle de 5 000 à 8 000 $ de pertes annuellement en lien avec les stress thermiques pour des conditions du Québec. Ensuite, elle a pris un peu ces chiffres-là, puis elle a essayé avec des différentes équations provenant de la littérature qui permettent de modéliser l'impact sur la production de lait de différents systèmes de ventilation, à savoir les ventilateurs de la circulation et la brumisation. Puis elle a mis ça dans ces différents modèles de changement climatique qui ont été établis là, par Uranos, un consortium qui s'intéresse à l'adaptation au changement climatique. Donc pour des futurs, soit à court terme ou à long terme, donc on parle 2020-2050 ou 2050-2080, pour se rendre compte que tout système-là de refroidissement permet d'améliorer le contenu en gras et en protéines dans le lait, donc pour une meilleure productivité et d'abaisser les pertes de rendement en lien avec la production de lait. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la brumisation donnait simplement un léger avantage en Montérégie, donc dans les températures les plus chaudes, mais qu'elle devenait rentable simplement à l'horizon le plus loin, donc 2050-2080. À court terme, ce qu'on se rend compte avec ces résultats-là, c'est que l'idéal, c'est d'optimiser la ventilation qui est déjà en place. Donc, le système s'assurer d'avoir les bons taux de changement d'air à l'heure, donc pour évacuer la chaleur, l'humidité, les gaz en trop. Ensuite, par période de stress thermique, d'optimiser la vitesse de l'air, donc souvent par des ventilateurs de circulation. Puis juste avec ça, normalement, dans nos conditions, on devrait être en mesure de régler un peu les problématiques de stress thermique, puis à plus long terme, éventuellement, les systèmes de brumisation ou les systèmes de refroidissement à l'eau vont devenir peut-être plus avantageux, iconiquement pensables, pour être installés là, sur nos fermes. Donc, c'est un peu qui va un peu à l'encontre, un peu la pensée d'un peu tout le monde, où il y a beaucoup de systèmes de brumisation qui s'installent présentement. Le problème, c'est qu'on est dans un climat qui est continental humide, donc contrairement à ces systèmes-là qui sont généralement utilisés dans des climats très secs et arides, donc où l'humidité relative de l'air ben, peut être aux alentours de 40%. Donc en utilisant ces systèmes de l'eau-là qui vont favoriser la baisse de température, mais favoriser l'évaporation de l'eau, donc une augmentation de l'humidité relative, quand on est à 40% puis qu'on a à monter à 60-65%, c'est pas très problématique. Par contre, lorsqu'on est dans un environnement plus humide comme ici au Québec, où ça peut monter jusqu'à 75-80% d'humidité relative. Là, si on ajoute 20%, ben, on vient de saturer notre air en eau, puis là, ça devient plus difficile pour la vache d'évacuer sa chaleur, étant donné que l'air est saturé en eau, donc il n'est plus en mesure de perdre de chaleur par transpiration, parce que l'air est déjà saturé. Donc, à ce moment-là, c'est un peu la grosse problématique de ces systèmes à l'eau-là, c'est qu'ils, oui, refroidissent un peu l'air, mais vont générer beaucoup d'humidité. Donc, lorsqu'on calcule un facteur humidex pour les vaches, un peu comme on le fait lorsqu'on écoute la météo en été pour les humains, ben on se rend compte qu'on vient empirer la situation avec ces systèmes-là, contrairement à, plutôt que de l'améliorer.
On est au Québec, on a des saisons quand même qui contrastent. Est-ce que les recherches là, nous ont instruit un peu sur la conception de la ventilation puis manière de faire peut-être pour s'adapter, parce que de l'hiver à l'été, là, c'est comme deux mondes, là.
Tout à fait, on ventile pas de la même façon en été comme en hiver, donc c'est effectivement pas les mêmes taux de changement d'air à l'heure. Donc dans les étables, en hiver, on peut être aux alentours de 4 changements d'air à l'heure, alors qu'en été, on peut atteindre aux alentours de 60. Donc, les premiers points. Puis ensuite, je le disais tout à l'heure, l'intérêt, c'est pas nécessairement, donc c'est d'avoir un bon brassage de l'air, donc pas nécessairement d'avoir des courants d'air un peu partout, surtout dans les situations hivernales. Donc, souvent, on a des animaux peut-être qui peuvent être plus sensibles au froid. Donc, si on est dans un bâtiment, par exemple, en ventilation naturelle, en ventilation tunnel plutôt, ou longitudinale, donc on va vouloir en été aller chercher de très grandes vitesses d'air. Donc, on va avoir une entrée d'air pleinement ouverte d'un côté. L'air va circuler sur le centre de la longueur du bâtiment pour sortir vers les ventilateurs d'extraction à l'autre. C'est très bien en été. Par contre, en hiver, si on a simplement cette entrée d'air-là qui est ouverte, donc, on va favoriser un grand courant d'air froid pour les vaches tout près de cette entrée d'air-là. Donc, souvent, on va avoir d'autres types d'entrées d'air en hiver pour favoriser de minces filets d'air qui vont rentrer un peu partout au travers de l'étable. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, des entrées modulaires au plafond, distancées chacune d'elles, donc pour aller amener un peu d'air frais donc à différents endroits à l'intérieur du bâtiment pour limiter justement de très gros courants d'air frais au niveau des vaches. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a d'autres également, mais c'est à peu près le plus gros exemple des grosses différences entre l'été et l'hiver. C'est beaucoup au niveau de comment on fait circuler l'air d'une saison à l'autre. L'idée, c'est que ces stress thermiques-là sont justement calculés en fonction d'un facteur humidex qu'on calcule pour les vaches, qu'on appelle le THI pour Temperature Humidity Index, donc l'indice de température humidité, donc qui nous permet de calculer ce facteur humidex-là. Puis donc, il est sur une échelle un peu plus américaine, donc on parle de début de stress thermique aux alentours de 65-68, une unité de THI. Donc ça correspond là, souvent à un 22 degrés à 65% d'humidité relative, quelque chose aux alentours de ça. Donc ça commence relativement rapidement les stress thermiques au niveau des vaches. C'est évidemment des très gros animaux qui produisent excessivement de chaleur, donc sont très sensibles par les températures chaudes. Donc, à partir de ces températures-là, souvent, ben, on va activer ces ventilateurs de circulation-là pour s'assurer d'aller chercher une certaine vitesse d'air au niveau de ces vaches-là pour s'assurer qu'elles puissent se refroidir efficacement et évacuer l'accumulation de chaleur en trop.
Où doit-on idéalement mesurer le vent dans une étable? Est-ce qu'il y a une façon de faire là, standard, si on peut dire, là, qui est comme un modèle, là?
L'endroit où l'animal va gagner le plus de chaleur, c'est lorsqu'elle est couchée dans sa logette. Donc, une vache qui est au niveau de la ligne d'alimentation, debout, en train de manger, va généralement être capable, étant donné qu'elle est debout, de dissiper quand même assez de chaleur. Alors que lorsqu'elle est couchée, Donc, elle va souvent gagner beaucoup plus de chaleur. Donc, c'est vraiment au niveau de la logette où ça devient problématique. Donc, l'idée, c'est que la vitesse d'air doit être mesurée à peu près à où est-ce que la vache est couchée, donc à environ 1,5 pieds du sol ou 0,5 mètres. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là qu'on va vouloir mesurer l'air puis d'aller chercher une vitesse d'à peu près 1 à 2 mètres secondes, donc qui, selon les recherches, permettent de maximiser là, les bienfaits sur la vache. Donc, l'idée, c'est d'avoir un système de ventilation qui est optimisé pour aller chercher ces vitesses-là pour chacune des logettes des vaches à l'intérieur de l'étable.
On constate qu'améliorer sa ventilation peut augmenter la productivité et le confort des animaux et celui des travailleurs. Voyons voir maintenant l'opinion d'un producteur, Catherine Larrivé-Bazinet, conseillère en transfert du savoir chez Lactanet, s'entretient avec M. Alexandre Veilleux de la ferme Merveille.
Bonjour M. Veilleux.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de votre entreprise?
Bon, on est la ferme Merveille, on est situé à Compton, en Estrie. Moi, je suis la quatrième génération sur la ferme. J'exploite la ferme avec un employé à temps plein. J'ai quelques temps partiels ici et là. Il y a des enfants là, qui contribuent aussi, là, hein, qui sont disponibles. On traite environ 65 vaches là, à l'année là, pour un quota de 95 kilos. On est en sablation entravée. Au niveau des cultures, on a 175 acres en culture. On fait 60 acres de maïs en silage. Puis le restant, bien, c'est des prairies, sur des luzernières et un petit peu de graminées au travers de ça. Là. C'est amélioré avec le temps. Ça a commencé en 2001. On a construit une vacherie de 60 places. Puis avec l'installation d'une ventilation tunnel, ça a été notre premier type de ventilation. Donc, on a gardé cette ventilation un bon bout quand même. Ça a été jusqu'en 2017, là, avant vraiment qu'on décide de retoucher à la ventilation. Entre-temps, bon, on avait fait le tour de d'autres améliorations. Fait que là, on était rendu à la ventilation. En 2017, comme je vous disais, on a installé une ventilation tunnel. On a commencé comme ça. On a fait 3 ans comme ça avec la ventilation tunnel. Pour ensuite, en 2020, on a rajouté des baskets fans là, au-dessus de la vacherie. Dans la vacherie, moi, j'avais la chance, on avait fait un plafond qui était quand même assez haut. Là, donc, on a pu suspendre des fans de bon diamètre, là, des 36 pouces au-dessus des vaches. Donc, on a rajouté comme une douzaine de fans, là, ce qui se trouve à être une fan pour 5 vaches. Là. Dans la partie de la vacherie. Puis on a complété, on a rajouté en 2021, on a rajouté d'autres baskets fans, mais dans l'ancienne partie qui se trouvait être un plafond plus bas, on a rajouté là aussi là, des plus petits diamètres. Là. On a rajouté des baskets fans, puis on a mis aussi au niveau là où les génisses qui sont encore au lait, là, 0,2 mois, on a rajouté 2 autres ventilateurs à ce niveau-là. Là. Fait que ça a été pas mal les améliorations au niveau de la ventilation dans les dernières années. Là.
Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir faire ces améliorations-là?
C'est sûr qu'on vise toujours hein, le meilleur confort pour les animaux. Puis comme vous avez constaté, ça a été un peu long avant qu'on fasse le move. On trouvait qu'on avait une bonne ventilation quand même. Le fait que la ventilation tunnel, on a l'impression qu'il y avait toujours un petit peu de vent. Mais quand on s'est décidé, là, à partir de ce moment-là, on s'est rendu compte à quel point on pouvait avoir des gains et à quel point on pouvait améliorer le confort et des animaux et des travailleurs aussi. Fait que c'est pour ça qu'à partir de 2017, là, on a vraiment mis l'emphase là, sur la ventilation. Là.
Bien, c'est ça, justement, pour me parler d'améliorer la productivité. Qu'est-ce que vous avez pu voir là, comme amélioration?
Si on regarde 2020 versus 2019, là, en considérant que le gros a été fait... Bien, 2017, là, c'est un peu loin. J'ai pas retourné jusque-là. Mais si on regarde les baskets fans qu'on a rajoutés au-dessus des animaux, là, 2020 versus 2019... on voit, j'ai 2 kilos de lait corrigé de plus, là, si on regarde le mois d'août là, en référence. Là. Puis c'est encore mieux si je monte avant 2019. Là. Fait que là, à ce niveau-là, il y a un très bon gain. Là. C'est sûr que le mois d'août, on a vécu des bonnes périodes de canicule. Fait que je trouvais que c'était une bonne période de référence. Là. Puis en plus, ben, c'est les journées supplémentaires d'automne qui arrivent. Fait que ça nous donne cet élan-là là, de... pour produire.
Ah ben parfait. Puis c'est ça, là, vous nous parliez des canicules, là, donc d'autres améliorations que vous avez vues autres que la productivité. Donc, par exemple, si vos vaches étaient couchées plus longtemps, vous parliez de la salade pour le stress thermique. Est-ce que vous avez vu d'autres choses là, autres que la productivité comme amélioration au niveau de vos vaches?
Bien, c'est sûr que au niveau de l'humidité dans la ferme, on le voit, ça sèche. C'est plus sèche un peu partout. Il y a moins de condensation. Au niveau du nombre de mouches, c'est vraiment frappant. Beaucoup, beaucoup moins de mouches. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr qu'il y a un confort accru aussi pour les animaux. Là.
Super. Puis si vous avez la différence entre votre ventilation d'été et d'hiver, est-ce que vous en avez une?
Ben oui. L'hiver, ben là, on retombe en ventilation naturelle. Puis combiné avec une ventilation mécanique là, pour les différentes parties là, où la ventilation tunnel fonctionne un petit peu moins.
Suivi, là, est-ce que vous avez des outils ou plus des gens qui peuvent vous aider là, à vous assurer d'avoir une ventilation optimale dans vos bâtiments?
Oui, absolument. Avec ma conseillère Lactanette, on utilise des outils qui sont à sa disposition là, pour mesurer les vitesses de des courants d'air ou les changements d'air aussi dans les bâtiments. Là. Fait que c'est plus au niveau de ma conseillère avec laquelle je me réfère là, pour le contrôle là, de la ventilation, là, de la prise de mesure.
Vous avez d'autres choses que vous aimeriez implanter dans le futur chez vous pour contrôler la ventilation ou d'autres technologies?
Mais là, non, on a fait pas mal le tour, je crois. Ben, il y a peut-être quelques zones, là, comme la partie où ce qu'on fait nos rations, où il y a le mélangeur, là, il y a peut-être une zone morte là, au niveau de la ventilation. Il y a peu d'animaux, mais c'est là qu'on voit que les mouches ils se rassemblent un petit peu plus. Ça fait que ça serait juste pour le contrôle des mouches, ça serait déjà. Puis pour les travailleurs, ça pourrait être une petite amélioration là. Mais au niveau des animaux, là, je suis satisfait présentement là, avec les améliorations qu'on a faites là, dernièrement.
Parfait. Puis ça, vous parliez des travailleurs. Est-ce que vous, côté plus personnel, est-ce que vous trouvez que c'est plus agréable de travailler dans vos bâtiments depuis que vous avez fait ces améliorations-là?
Mais clairement, pour la chaleur, c'est tout au niveau. Là. C'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. À mettre un bémol, c'est sûr que là, on passait d'une ventilation naturelle qui est très, très, très silencieuse à une ventilation plus mécanique. C'est sûr que c'est un peu plus bruyant. Là. On peut pas cacher ce côté-là. Là. Mais sinon, je regrette en rien là, mes nouvelles installations. Là.
Je vous laisse le mot de la fin là, avec la question suivante. Donc, qu'est-ce que vous diriez à un producteur qui hésite à changer ou améliorer la ventilation dans ses bâtiments?
Ben, je dirais qu'on gagne toujours à améliorer le confort des animaux puis le confort des travailleurs. Donc, la ventilation, on a une belle opportunité là, d'améliorer là, tout ça. Là.
Parfait. Ben, merci encore pour votre temps et on se dit à la prochaine.
Merci.
Les variations de température dues au changement climatique seront plus fréquentes et il faudra s'adapter plus vite, notamment avec l'automatisation des procédés. Nous concluons ce premier épisode avec Steve Adam, expert en production laitière, confort et bien-être chez Lactanette, avec qui Catherine s'est entretenue.
On va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, à quoi ça sert la ventilation?
Bien, tout d'abord, la ventilation, ça sert à contrôler la température dans un bâtiment agricole avec les bovins. Puis de deux, bien, c'est l'échange d'air. Donc, on veut purifier l'air, enlever les contaminants, les odeurs, l'humidité, la température. Donc, on veut gérer l'ambiance où est-ce que sont les animaux dans notre étable.
Parfait. Comment est-ce qu'on peut savoir si la ventilation à la ferme est bonne ou moins bonne?
De un, juste avec notre nez, en sentant, quand on rentre dans un bâtiment, une des choses que je fais en premier, c'est vraiment de sentir. Parce qu'une fois qu'on est rentré dans le bâtiment, on sent presque plus rien. Mm-hmm. Donc, l'odeur, au départ, on peut détecter des odeurs d'ammoniac. Il y a des appareils pour le mesurer aussi. Le taux d'humidité dans un bâtiment, on voudrait alentour de 50 à 65 % d'humidité. Puis, au niveau de la température, là, c'est sûr que la température Nous, on préfère avoir souvent une température en hiver un petit peu plus chaude,
mm-hmm.
mais les bovins, eux, le température, c'est plus alentour de 5-10 degrés qui sont confortables. Puis la zone de thermorégulation pour eux, c'est entre 5 et 20 degrés. Puis les petits veaux, ben, sont plus confortables alentour de 15 à 25 degrés Celsius.
Parfait. Si on a une ventilation qui est bonne à un bout de l'étable, est-ce que ça veut dire qu'elle va être bonne partout?
Non, c'est ce qu'on rencontre dans les bâtiments, c'est qu'à un bout de l'étable, on a de l'air qui est fraîche, qui est pur, puis on arrive dans certains coins ou raccoins. On a souvent des murs, des obstacles qui empêchent que l'air circule bien dans notre bâtiment, puis on a des coins morts, des fois, dans certains bâtiments où juste à se promener, on sent qu'il fait soit plus chaud, l'air elle semble être plus lourde, plus humide. Donc, c'est là qu'on commence des fois à avoir des problèmes de ventilation, des problèmes de santé, même des animaux, dans ces zones-là, dans le bâtiment.
Parfait. Si on regarde les stades de la vache, à quel stade est-ce que ça serait plus propice là, à être affecté par des problèmes de ventilation?
C'est sûr que le problème de ventilation, ça peut affecter tout stade de production d'une vache. Mais je dirais où est-ce qu'ils sont les plus sensibles, les vaches, c'est préparation veillage, au moment du veillage, les vaches fraîches. Donc, ces zones-là, ben, on s'assure vraiment d'avoir une qualité d'air qui est optimale, puis une température qui est optimale. Puis si on regarde au niveau des jeunes, de la relève, ben, des petits veaux de la naissance, surtout les petits veaux qui sont au lait, ben, c'est les animaux les plus fragiles au niveau de la qualité de l'air, d'attraper toutes sortes de microbes aussi. Donc, ce qu'on veut, c'est une qualité d'air qui est vraiment bonne pour ces animaux-là.
Parfait. Puis souvent, pour les veaux, on dit, tu sais, on veut pas qu'il y ait de courant d'air, mais on veut une bonne circulation. Ça serait quoi la différence là, pour avoir une bonne ventilation pour les veaux?
Ouais, les veaux, c'est vraiment le défi. Là. Souvent, on a des bonnes ventilations, mais un veau, c'est coucher à peu près 80-85% de son temps dans une journée. Donc, c'est d'apporter de l'air neuf au niveau du sol, mais que la vitesse soit pas trop grande, surtout quand on a de l'air froid qui arrive de l'extérieur. On voudrait pas qu'il y ait un vent trop grand. Puis le vent, à peu près, ce qu'on dit, c'est environ 60 pieds minute ou 0.3 mètres seconde, à peu près à 4 pieds du sol, 3-4 pieds du sol. Donc, on regarde, là, on est capable de mesurer le vent à cette hauteur. Puis souvent, l'autre problème qu'on a avec les petits veaux, c'est qu'on veut tellement pas de courant d'air qu'ils en ont plus d'air. Soit qu'on les bloque, puis souvent, ils se forment un genre de micro-environnement au-dessus des veaux. Puis on pense qu'on a de la bonne air dans notre bâtiment, notre air circule bien, mais au niveau du sol, au niveau des veaux, des fois, la qualité de l'air n'est pas là.
Ah, OK. Parfait, bien merci. Si je continue avec ma prochaine question, donc si j'ai des ventilateurs, est-ce que ça veut nécessairement dire que j'ai une bonne ventilation?
Non. Alors, tout le monde peut avoir des ventilateurs, mais... il y a des concepts qui existent en termes de nombre de changements d'air à l'heure. Donc, ça définit la grosseur des ventilateurs qu'on doit mettre. Donc, le volume d'air qu'on a à expulser ou à entrer dans le bâtiment. Donc, il y a un concept de changement d'air. Puis, l'autre concept, c'est en période de stress thermique ou de chaleur. Là, on voudrait plus de vent. Donc, le vent, c'est ce qui va faire refroidir les animaux. Puis, au niveau du vent, on vise pour des vaches en lactation parce que ça dégage beaucoup de chaleur.
Mm-hmm.
On vise à peu près un vent de 300-400 pieds minute, 5 à 7 km heure sur le dos des animaux.
Parfait. Puis quand il y a des variations de température, ça serait quoi l'impact sur les animaux?
Souvent, au niveau de la variation, puis on va en connaître de plus en plus avec les changements climatiques, des périodes en plein hiver de redoux, puis les températures augmentent. Souvent, les températures augmentent à l'extérieur, l'air est plus humide, on a de la neige qui se réchauffe, puis d'un fois, on arrive en plein milieu de la nuit, puis ça vient de tomber de 10 degrés plus bas ou 15 degrés plus bas. C'est cet impact-là, quand on rentre cet air-là dans le bâtiment, de l'air froid, ça a tendance à vouloir condenser, puis notre taux d'humidité vient de changer beaucoup dans notre bâtiment. Puis je dirais que les animaux les plus sensibles, les petits veaux, oui, les vaches au niveau du veillage, mais c'est là que des fois qu'on va avoir arrivé des périodes de pneumonie au niveau de ces veaux-là parce qu'on a eu un changement brusque et on n'a pas été capable de s'adapter assez rapidement pour contrôler la qualité de l'air dans notre bâtiment.
OK. Puis comment est-ce que l'automatisation pourrait nous aider là-dedans dans les variations de température?
au niveau de l'automatisation, je pense que ça va être peut-être une des clés avec le futur, parce que c'est pas évident là, de gérer ces changements-là, puis c'est assez soudain. Puis souvent, c'est le taux d'humidité. Au niveau des fermes laitières, on mesure pas souvent le taux d'humidité dans un bâtiment. On l'a dans le porc, le poulet, sont habitués de travailler avec le taux d'humidité. Nous, ce que ça permettrait de faire un petit peu l'automatisation avec des senseurs ou des lecteurs de taux d'humidité, on pourrait calibrer la ventilation pour soit mieux ventiler, augmenter la ventilation ou la réduire. Pour avoir une ambiance qui est mieux contrôlée que ce qu'on fait souvent présentement.
Parfait, merci. Si on passe à la prochaine question, qu'est-ce que tu prends en note quand tu vas sur une ferme pour faire un diagnostic sur la ventilation?
La première chose, il existe des chartes ou des normes au terme du taux de changement d'heure à l'heure. Donc, sur les appareils, sur les ventilateurs, on a le débit des ventilateurs. Donc, pour savoir si notre changement d'heure est adéquat, on prend les débits qui sont sur les ventilateurs ou les fiches techniques des ventilateurs avec le volume de notre bâtiment. Puis de là, on a au moins une idée un peu du changement d'heure qu'on a dans notre bâtiment. Par la suite, je regarde un peu aussi avec nos changements d'heure, ça prend des entrées d'heure parce qu'on veut que l'heure rentre à l'étable, mais ça prend il y a aussi des normes qui existent au niveau de la grandeur d'une entrée d'heure, puis le positionnement. Surtout, mon diagnostic, souvent, c'est dans le positionnement des entrées d'heure pour permettre à l'heure de bien circuler. C'est un des gros choses que je fais à la ferme, c'est vraiment de regarder où est-ce que l'heure se promène pour éviter les coins morts ou avoir une bonne qualité d'heure. Puis, par la suite, je mesure aussi le vent sur le dos des animaux quand on veut réduire le stress thermique en été, le stress de chaleur. Donc là, je me positionne parmi les animaux, puis je mesure la vitesse de vent.
OK. Puis, ça serait quoi l'instrument que tu utilises pour mesurer le vent dans l'étable?
L'appareil que je prends le plus souvent, c'est un anémomètre à fil chaud qui permet de mesurer du vent de haute vélocité, puis aussi des petits courants d'air. Donc, c'est un appareil qui est plus cher, mais qui est très sensible aux petits courants d'air comme aux gros vents. Sinon, en ventilation, en été, où est-ce qu'on veut une bonne vitesse de vent, les anémomètres à hélice, ça fonctionne super bien aussi pour mesurer la vitesse de vent.
Parfait. Si on parle de courant d'air et tout, si je reviens au petit veau, ça serait quoi la meilleure place si je me bâtis un nouvel étable? Ça serait quoi la meilleure place pour mettre les veaux dans l'étable?
Je dirais peut-être en premier, c'est il y a des pires places pour les mettre.
Okay.
Souvent, est-ce qu'on va arriver, des fois, on a un bâtiment où est-ce qu'on a le nettoyeur ou le piston ou l'évacueur pour. On a toujours un petit coin mort où est-ce qu'il y a de la place pour mettre des veaux. Là, c'est un bel endroit. Sauf que c'est peut-être la pire place parce qu'on est souvent à la fin du bâtiment.
Mm-hmm.
Nos ventilateurs, souvent, sont positionnés là. Donc, on apporte l'air vicié de toutes les vaches vers les petits veaux. C'est pas la bonne place à être. Quand on est à l'entour du piston ou du nettoyeur, les odeurs sont là, puis la qualité de l'air, l'humidité est là aussi, donc c'est pas la bonne place. Ce qu'on voudrait, c'est qu'ils soient positionnés plus près des entrées d'air pour avoir de l'air fraîche. On veut de l'air qui est pur, qui n'est pas contaminé. Sauf que le défi dans les mettant plus au début ou près des entrées d'air, c'est d'éviter les courants d'air en hiver. Fait que ce ne sont pas faciles à placer les petits veaux, mais je dirais où est-ce qu'on est capable de les avoir, où est-ce que l'air est la plus pure possible, c'est la bonne place à les mettre.
Parfait. Bien, merci beaucoup, Steve, d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour le balado sur la ventilation. Ce que j'aime faire, c'est laisser le mot de la fin à mon invité. Donc, ma dernière question, ça serait, à quel endroit est-ce que je peux aller chercher plus d'informations sur la ventilation?
Il n'existe pas beaucoup d'informations au niveau de la ventilation, puis des fois, l'information est assez vieille. Sauf qu'il y a certaines universités qui se sont plus attardées au niveau de la ventilation. Puis si on regarde au niveau des États-Unis, il y a différentes universités qui ont de l'information, ils ont des sites aussi Internet. Université du Wisconsin, Université de Penn State, Cornell, ils ont de l'information. Si on se tourne vers le Canada, ben on a de l'information en Ontario avec le site l'OMAFRA, qui est le ministère de l'Agriculture en Ontario. Puis au Québec, on a la chaire de leadership en enseignement des bâtiments agricoles durables qui aussi s'attarde à la ventilation. C'est un de leurs mandats ou un de leurs buts de regarder la ventilation. Puis nous, en collaboration avec la chaire, on va produire un portail dans un futur proche où est-ce qu'on va essayer de compiler ou de mettre toute l'information sur les bâtiments pour quelqu'un qui voudrait rénover, qui voudrait construire, avoir au moins les grandes lignes, quoi faire attention au niveau du bâtiment. Puis on devrait avoir un chapitre au niveau de la ventilation en tant que telle.
Ah, parfait. Fait que toute cette information-là, ça va être sur le site de l'Actanet, là.
Oui, tout sur le site de l'Actanet. On devrait avoir un lien là-dessus quand il va être terminé.
Parfait. Mais encore une fois, merci Steve. Et nous, on se dit à très bientôt.
Merci beaucoup.
Le balado production laitière du CRAC a été réalisé grâce à la collaboration de Valérie Bélanger, coordonnatrice au transfert chez nos Valets, et Catherine Bazinet-Larrivée, conseillère en transfert du savoir chez Lactanet. Le balado production laitière est rendu possible grâce au financement du partenariat canadien pour l'agriculture. Mon nom est Antoine Léveillé. Au revoir.